Mars Express a été présenté en avant-première lors de la 24e édition du Arras Film Festival organisé par l'association Plan Séquence. Ce film d'animation a été en partie tourné et réalisé dans des studios lillois et est également soutenu par Pictanovo, association dédiée à l'émergence des talents, la création cinématographique et audiovisuelle et à la détection des innovations dans l'ensemble des domaines des Hauts-de-France. Ce long métrage d'animation raconte l'histoire de Aline Ruby, détective privé, et son collègue androïde Carlos Rivera. Nous sommes en 2200 et ils partent dans une course contre la montre sur Mars. Leur mission est de retrouver une étudiante en cybernétique disparue avant les tueurs qui la traquent. À mi-chemin entre le film noir et la science-fiction, ce film très intuitif et subtil dans sa conception nous entraîne dans un monde futuriste où les robots revendiquent leur liberté. Avant de retrouver Jérémy Perrin, réalisateur et co-scénariste en interview, je vous propose de se plonger dans l'univers de Mars Express par le biais de la bande-annonce et de quelques réactions de spectateurs recueillies par Laura pour Radio PFM à l'issue de la projection.
Roy Jacker vous attend dans votre bureau.
Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ?
Ah oui, lui aussi mis à jour.
C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
Mode sobriété activée.
Ouais, désactivation.
Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ?
Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend.
Désactivation !
Il enfreint la directive 1.
On a localisé l'androïde.
Vous voyez ça ? Il s'est pas laissé faire, le gars.
Hé, hey, venez voir par ici !
Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial ? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot ?
Sa fille soupçonnait June de se prostituer.
Regarde ce que je vois en thermique.
Vous avez des prostituées humaines ?
Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ?
C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
Écartez-vous !
Missile !
J'arrive, Aline !
Ce qu'on en a pensé, surprenant. Des passages qui nous ont fait penser au film iRobot. Mm-hmm. Et puis, c'était une découverte totale pour nous. Donc, les dessins sympas, etc. Après, un peu décousu. Moi, j'ai été un peu larguée par moments. Voilà.
Les robots, oui, c'est le côté android.
Oui.
Qui ont une conscience et qui veulent partir. Qui étaient les hommes qui les traquent.
Qui sont presque plus humains que les humains.
Voilà. C'est ce que je me disais, c'est un côté assez violent finalement, c'est pas un monde utopique.
Alors violent, oui et non, parce qu'en fin de compte, moi je trouve que c'est plutôt presque poétique en fait.
Il y a les deux, il y a le côté violence.
Oui, mais c'est gommé par le côté... je sais pas en fait. En tout cas, c'est esthétiquement très joli. L'histoire, plutôt pas mal. Non, bien. Franchement, très bien.
Moi, personnellement, j'ai adoré. C'était trop bien. C'est la première fois que je vois un film d'animation comme ça et j'ai adoré.
Bah, exactement pareil pour moi. C'était très instruisant, on dit. Je sais plus comment on dit, mais j'ai adoré aussi. Franchement, incroyable.
Est-ce que ça vous donne envie de vivre dans un monde futuriste comme ça ? Bon, je sais pas si ce sera possible dans quelques années, mais...
Ouais, quand même. Ouais.
Moi, pas trop, justement.
Tant que ça se finit
pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Tant que ça se finit pas comme ça, ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté assez pessimiste, hein, vu la façon dont ça se finit. Voilà.
C'est mieux de vivre en harmonie avec tout le monde, même les robots. Hein. Oui, surtout avec soi-même.
C'était très bien. C'est une production sympathique du réalisateur qui fait aussi deux très bonnes séries, mais c'est encore dans un univers différent qui gère très bien. Les personnages sont sympathiques, c'est une histoire avec une fin ouverte. Enfin, c'est assez classique au niveau de la construction du film, malgré le support. Et le scénario était sympathique, donc dans l'ensemble, un bon film.
Ça donne envie de vivre dans le futur ?
Pas particulièrement, non, mais les bons films ne sont pas nécessairement faits pour nous donner envie de vivre où il se passe.
Oui, finalement, ça n'a pas l'air si utopique que ça, en fait.
C'est plutôt un futur dystopique, très clairement, oui, mais c'est un plus ou moins un spécialiste de la dystopie. Même Last Man, la série qu'il a sortie au démarrage, c'est pas particulièrement plein de tendresse au niveau du regard sur la société.
On retrouve à présent le réalisateur et co-scénariste de Mars Express pour évoquer, entre autres, son travail, la collaboration avec le studio d'animation lillois et ses influences pour ce premier long métrage d'animation. Jérémy Perrin, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de votre film, hein, Mars Express, hein, qui était proposé donc en avant-première. Il est soutenu également par Pictanovo, et puis une partie donc a été réalisée dans des studios lillois, hein, des Hauts-de-France. Alors d'abord, première question, il y a eu une rencontre avec le public hier. Et je crois savoir qu'il y a pas mal de jeunes publics qui vous ont posé quand même des questions assez pointues.
Oui, c'est ça. Alors en première partie, effectivement, il y a un studio qui s'appelle Tchak qui a participé à la fabrication des décors sur le film. Voilà, on avait 5 studios différents qui ont travaillé sur le film, qui étaient tous répartis dans des régions différentes de France, mais bref, effectivement, à Lille, c'était le cas également. Et donc, hier, ouais, beaucoup de jeunesse dans le cinéma. Alors, ouais, ils ont posé plein de questions, effectivement.
Sur les jeux vidéo aussi ?
Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a des questions sur les jeux vidéo. Et ce qui est marrant avec les plus jeunes, c'est que quand ils me posent des questions sur les références du film, et notamment sur certains jeux vidéo qui auraient servi de référence ou pas au film, on se rend compte que pas forcément, enfin qu'on n'a pas exactement les mêmes rêves. Je connais ce dont ils me parlent, simplement c'est des trucs extrêmement récents, là où moi effectivement il y a des points communs avec leurs références à eux, mais elles sont plus anciennes, c'est des anciennes qui ont également influencé les références dont ils me parlent, comme si ces références plus récentes avaient tout inventé, alors que c'est en fait un continuum d'influence qui traverse tout un tas d'œuvres, et donc Mars Express également aujourd'hui, mais voilà quoi. Donc c'est marrant d'avoir cette discussion avec eux pour leur dire « Ah mais tu sais qu'en fait, ce jeu vidéo dont tu me parles, je vois très bien pourquoi tu me dis ça, mais lui-même ne sort pas de nulle part. Il est le résultat de tout un tas d'œuvres précédentes qui ont également infusé Mars Express, et donc il y a une ressemblance entre les deux, mais elle est involontaire car j'ai pas joué à ce jeu. »
On va parler un petit peu du casting, hein, parce que pour les voix notamment, il y a Mathieu Amalric, Léa Drucker et aussi Marthe Keller qui prête sa voix, je pense que c'est le rôle de Beryl, si je me souviens bien.
Ouais, c'est ça, c'est Beryl. En fait, nous on écrit le scénario sans se poser tout de suite la question de savoir qui va interpréter quel personnage, mais une fois que le scénario est validé, on se met autour de la table avec le co-scénariste Laurent Sarfati, le producteur Didier Crest et le directeur plateau des comédiens Martial Leminou, et on discute un petit peu de tous les personnages, qui on entendrait dans tel rôle, et assez vite est venue l'idée de faire un mélange de bagages artistiques et techniques du côté des comédiens et comédiennes, avec à la fois certains et certaines qui viendraient du cinéma que nous on appelle le cinéma prise de vue réelle quand on est dans l'animation, quand on parle des films faits en photo, on va dire, et un mélange d'acteurs et d'actrices venant du théâtre et qui étaient rodés plus à la question de l'enregistrement de voix dans les dessins animés ou dans le doublage de films étrangers. Et de là, moi j'ai aussi amené des gens qui venaient plus d'Internet, des youtubeurs ou des journalistes, chroniqueurs, enfin si on pense à Usul et au capitaine du Nexus 6. Donc on s'est dit qui peut interpréter Aline, qui peut interpréter Chris Roy Jacker, et en réalité, assez rapidement, on est tombé d'accord sur Léa Drucker, Mathieu Amalric, Sébastien Chassagne et Daniel Lobé. Mais c'est vrai que pour ce qui est de Marthe Keller, c'est arrivé assez tard. En fait, l'idée, on avait tenté autre chose au tout début sur Beryl. Et du fait que Beryl est souvent un personnage qu'on entend dans des conversations téléphoniques, je vais le dire comme ça, on pouvait confondre sa voix avec celle de Aline. Et m'est venue cette idée de prendre une comédienne qui a un accent fort prononcé et qui lui donnerait une personnalité immédiatement reconnaissable, juste en voix off. C'est-à-dire que dans un dessin animé, on peut se dire que tous les acteurs sont des sortes de voix off, mais comme on ne voit même pas son visage au moment où elle discute, les premières séquences dans le film, il fallait vraiment que sa voix pure soit identifiable instantanément. Et Marthe Keller était parfaite pour ça.
Alors, votre film, évidemment, on ne peut pas l'évoquer sans évoquer justement certaines références. Moi, j'ai trouvé un petit peu un côté Blade Runner, parce qu'il y a un côté polar, film noir également. Mais aussi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a un film qui est sorti en 2006, si je me souviens bien, qui s'appelle Renaissance, de Patrice Volkmann. Et j'ai trouvé quelques similitudes, non pas dans le scénario, mais dans la façon, justement, d'animer, etc.
Oui, en fait... La réalité, c'est que du point de vue de la science-fiction, le côté SF du film, on ne s'est pas trop privé de laisser libre cours à inconsciemment retranscrire nos références. C'est-à-dire que on ne s'est pas dit on va mettre une séquence à la manière d'eux ou je ne sais pas quoi. On a juste laissé filer ce qui nous venait en cohérence avec le scénario et l'histoire qu'on racontait, bien sûr. Cela dit, certains moments, moi je sais qu'il y a des séquences qu'on a écrites où je me suis dit non, là franchement ça ressemble un petit peu trop à je sais plus quoi aujourd'hui, mais peut-être soit à Akira ou Terminator, j'en sais rien, enfin je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'il y a des moments où comme ça je me suis dit non, là ça se voit trop, et en plus ça fait un peu gratuit, enfin je veux dire ça fait pas rebondir, ça dialogue même pas avec les références et avec notre propre film, il n'y a pas un jeu comme ça, donc ça c'était éliminé, mais sinon c'était plus comme ça qu'on gérait les références, sinon pour le reste on laissait un peu filer, parce que finalement on a un peu la science-fiction dans le sang avec Laurent et avec Michael Robert qui est le directeur artistique du film. Non, c'est plus les références beaucoup plus conscientes et travaillées étaient plus du côté du film noir et du polar, parce que c'est quand même ça qui est le moteur dramatique du film. C'est ça qui fait avancer les personnages, enfin cette structure de polar, et qu'on avait besoin avec Laurent Sarfati d'analyser, donc de revoir beaucoup de films du genre, et puis décortiquer, comprendre comment par quelle porte d'entrée on prend une enquête. Généralement on entre dans un petit trou comme ça, dans le bout de la lorgnette, et puis finalement le personnage, le détective privé, retrouve plein de pièces de puzzle, alors dans quel ordre et tout, et à la fin on doit se faire quand même une idée que l'enquête était bien plus grande que ce qu'on pouvait imaginer. C'est pas juste une histoire d'enlèvement ou de tromperie, souvent c'est des histoires de « je crois que ma femme me trompe » et puis on découvre que c'est tout un problème de barrage électrique qui va sauter et que toute une région va... Enfin voilà, c'est les histoires de détectives privés, quoi. Je fais exprès de pas dire ce qui se passe tout à fait dans le film, pour pas spoiler, et de prendre des exemples au hasard. Mais voilà, c'est vraiment plus ça qu'on a consciemment analysé. Pour tout ce qui est idées de science-fiction, on s'est plus inspiré à la fois des sujets d'aujourd'hui et en même temps et des connaissances scientifiques qu'on a autour de Mars, des intelligences artificielles, d'un peu tout ce qu'il y a dans le film, quoi. Et d'utiliser de laisser infuser toutes nos influences sans vraiment les réfléchir plus que ça.
Ouais, je pensais aussi à la série qui était passée sur Arte il y a un moment, Human. La thématique, évidemment, c'est la liberté des robots. Oui, oui. Là, du coup, voilà. Et puis, cette planète, justement, qui s'appelle Noctis, vous avez rencontré un planétologue, hein, je pense que c'est un... Voilà, pour voir un petit peu... C'est une face cachée ou une face, un certain environnement pour cette ville sur la planète Mars.
Voilà, c'est ça. En fait, on est sur Mars. Hein, la planète, c'est Mars. C'est la ville qui s'appelle Noctis. En fait, on a rencontré effectivement des scientifiques à l'étape de l'écriture pour leur poser des questions sur quelle gravité il y a sur la planète, en termes de luminosité, qu'est-ce que ça donne d'être sur cette planète, etc., pour un œil humain, tout un tas de choses comme ça. Et notamment, une des questions importantes qu'on leur a posées à Sylvain Boulet et François Costard, c'est où on installe notre ville en fait. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, ils étaient là genre, bon, j'ai jamais réfléchi à où il faudrait se mettre sur la planète s'il fallait y habiter. Parce qu'en fait, ils trouvaient ça, même au départ, quand on leur a expliqué, enfin surtout François Costard, on lui disait, ouais, on écrit un film de SF, on voudrait qu'il se passe sur Mars, c'est trop bien et tout. Et il nous disait, oh, mais pourquoi vous voulez faire ça? Je veux dire, si on doit se retrouver à aller sur Mars et que la Terre aura été dévastée, qu'il n'y aura plus aucune ressource, c'est pas le moment d'aller sur Mars, ça n'a pas de sens, c'est un délire de milliardaires égocentriques et tout. Puis on se dit, oui, c'est exactement ce qu'on raconte dans le film. Et il a, ah ouais, super, alors j'arrive. Et puis donc, il est venu pour donner sa contribution. Et donc en fait, après avoir réfléchi et en regardant un planisphère comme ça de la planète en 3D, et ils nous disent, eh ben, je pense qu'il faut aller à Noctis Labyrinthus, c'est le nom réel de cet endroit. Vous pourrez chercher sur internet, en tapant le truc, vous allez tomber sur des photos. Parce que toute la planète est cartographiée déjà, hein, tout est déjà nommé, etc. évidemment. Et tous les lieux ont des noms de villes ou de régions qui auront l'air de sortir de Donjons et Dragons, quoi. Noctis Labyrinthus, ça fait vraiment, voilà, on a l'impression d'être dans un JDR. Et donc nous, on a raccourci en Noctis, si bien que, voilà, il y a des jeunes joueurs qui pensent que c'est un rapport avec Final Fantasy XV, un jeu vidéo avec donc dans lequel le perso principal s'appelle Noctis. Ça vient pas de là, mais ça me fait rire que ça puisse être confondu. Bref, en tout cas, d'aller à cet endroit-là parce que c'est un réseau de canyons qui anciennement étaient des fleuves de lave effondrés et donc qui ont donné ça comme ça à une espèce de labyrinthe entre guillemets. Ça a beaucoup d'intérêt par rapport à une installation de colonie, c'est que bon, l'idée c'est de toute façon de se protéger des radiations quand on est sur cette planète, d'où le dôme qu'on a nous dans le film. Mais dans un premier temps, il faut que les premiers colons, il n'y a pas de dôme installé au départ, donc il faut qu'ils puissent vivre en troglodyte à flanc de falaise, donc de ces canyons. Pendant que nous, c'est ce qu'on s'est imaginé, les robots eux sont à l'extérieur pour fabriquer un dôme qui se tient d'autant plus simplement que il n'y a pas tout à faire des murs, etc. Ils sont déjà présents dans la roche, il n'y a qu'à poser un plafond, quoi. Et l'idée c'est que donc les premiers colons vivent sous terre la ville se déploie à mesure que le dôme se construit effectivement, et là on sort, etc. Et en fait, dans le film, c'est pas vraiment dit, mais c'est sous-entendu avec le vieux Noctis qu'on voit qui a l'air d'être souterrain justement, qui part dans des tunnels et des trucs, voilà. Donc c'est en posant toutes ces questions-là et en voyant ça avec eux que est née aussi l'esthétique du film, qu'on a tiré le fil vraisemblable de leurs informations.
Bah justement, en parlant d'esthétique, notamment la technique d'animation. Alors moi, j'ai aussi une vision d'autres références, mais plutôt BD. Cette fois-ci, avec la revue qui est René de ses cendres, Métal Hurlant, où il y avait beaucoup d'auteurs. Et j'ai trouvé que nous, au niveau de l'esthétique, ça ressemblait. Alors il y a plein d'auteurs, évidemment. Il y a Mobius, notamment. Voilà, donc je ne sais pas si pour vous...
Si, bien sûr, c'est une référence évidente. Et en fait, c'est une référence qui, c'est drôle, a infusé en réalité... toute la SF mondiale. Je veux dire, même Alien, Blade Runner ont aussi leurs sources dans Moebius, dans Metal Hurlant, parce que Ridley Scott était un amateur de Moebius, ils ont travaillé ensemble. Le film Dune de Jodorowsky, qui ne s'est jamais fait, avait déjà rassemblé des équipes qui étaient notamment aussi constituées de dessinateurs de Metal Hurlant. Et James Cameron a travaillé avec Moebius, Abyss c'est le cas, Tron c'est pareil. Et il faut savoir que même l'animation japonaise qui a le plus mes faveurs et qui m'a le plus influencé et inspiré dans ma jeunesse est également sous influence de Metal Hurlant. Je pense à Akira, je pense à Satoshi Kon, je pense à cette partie de l'animation japonaise qui a cet aspect un peu plus occidental, on va dire, entre guillemets, en tout cas qui avait même les faveurs de la critique parce que c'était une animation qui n'avait pas les oripeaux des grands yeux, des cheveux verts et roses qui à l'époque, je parle des années 90, hein, bien sûr, aujourd'hui c'est une autre histoire, mais à l'époque ça, c'était mal vu, c'était genre pourquoi ils sont comme ça les personnages et tout, bref. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout et on accepte totalement cette esthétique. Voilà. Mais voilà. Et donc, bref, en tout cas, oui, tout ça a nourri le film, évidemment, et mon style de dessin. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est un design qu'on a mis en place avec Michael Robert, qui lui était plus du côté décor, et moi, je n'ai pas créé tous les personnages, mais parce que j'en ai laissé aussi à mon équipe, Niels Robin, Anne Galvez, je me souviens que Eléa Gobé-Mévélec en a fait aussi, Juliette Broca, je crois. Mais bref, en tout cas, j'ai fait les tout premiers personnages principaux et les uns et les autres devaient suivre quand même cette esthétique-là, quoi.
Alors, dans votre film, donc, il y a un vocabulaire qui est assez pointu, quand même, hein, pour les non-initiés, on va dire. Alors, il y a les sauvegarder, les augmenter et les brain farmers. Pour nous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est la différence entre les trois.
Oui, bien sûr. Alors, les sauvegarder, c'est comme Carlos, c'est-à-dire c'est des êtres totalement artificiels, mais qui ont enregistré leurs souvenirs, leur mémoire, leur personnalité. Et les ont et au moment de leur mort, c'est important, il faut être mort pour pouvoir avoir un sauvegardé, c'est une sorte d'assurance sur la mort en gros, réinjecté dans un corps synthétique qu'ils ont préalablement acheté évidemment, si bien qu'ils sont sauvegardés, en fait ils sont ressuscités entre guillemets, mais la question qui se pose dans le film c'est est-ce que c'est vraiment toujours eux, ou est-ce que c'est simplement qu'un émulateur d'eux-mêmes. Voilà. Les augmentés, c'est ce qu'on appelle classiquement des cyborgs, c'est-à-dire que c'est des humains, mais qui ont des augmentations artificielles. C'est du transhumanisme classique. Alors, pour certains de nos personnages, ils ont même des gadgets. Hein, c'est pas juste. Ce qu'on appelle des augmentés, c'est aussi une manière d'avoir des capacités humaines supérieures. On a un personnage qui a une lame dans le bras, ou ils ont des ce qu'ils appellent des nanosutures, c'est des robots microscopiques qui viennent les réparer de l'intérieur, enfin les soigner. Les Brain Farmers, c'est une organisation qui illégale au marché noir et tout, qui utilise le cerveau de programmeurs, a priori, qu'ils enferment dans une réalité virtuelle, qui leur fait accélérer 50 fois l'activité cérébrale pour les faire travailler pendant des jours et des jours, alors que dans la réalité, c'est pendant des sessions d'une après-midi en réalité. Mais alors, c'est extrêmement épuisant, ça défonce le cerveau, mais ça permet de faire des... C'est intraçable comme travail, et donc il y a tout un marché noir du travail de programmation, de traitement des données via des cerveaux humains, mais enfin des cerveaux humains contenus dans un corps. Hein, c'est pas des cerveaux extraits et qui sont dans des bocaux. Hein, c'est, voilà. Et voilà. Et donc, le plus souvent, c'est des étudiants fauchés qui ont recours à ça, et donc voilà, il y a une espèce d'exploitation comme ça du travail, du temps de cerveau disponible, on va le dire comme ça.
Et on laissera le spectateur deviner ce que c'est que le take-over. Alors, il y a une phrase clé aussi à un moment du film, il faut avoir la foi pour un robot. Ça signifie quoi avoir la foi pour un robot ?
Ben alors moi je pense que c'était surtout une manière de trouver une idée simple qui rassemble les foules, c'est-à-dire qui leur donne une raison de créer société. Dans le film, on se rend compte que les robots, ils sont tous un peu séparés les uns des autres et à la merci des humains. Et il y a ce moment dans le film où le paradigme change, et ce paradigme, il passe par un espoir commun. Et là, on l'a simplifié en une idée religieuse ou une idée de foi. Mais parce que je pense quand même que c'est quelque chose qui soude des communautés, une foi ou un espoir commun ou une religion. Et donc c'est cette manière de faire. Et par ailleurs, on n'associe pas tellement l'idée d'être artificiel avec quelque chose de divin. Et nous, c'est un peu ce que... Enfin, si, ça s'est déjà fait dans la SF, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a voulu un peu pousser aussi dans le film.
Votre film, évidemment, sera sur les écrans français très bientôt.
Le 22 novembre.
Eh ben, rendez-vous le 22 novembre dans les salles. Alors, merci beaucoup, Jérémy Perrin. C'était un reportage autour du film d'animation Mars Express, présenté en avant-première lors de la 24e édition du Arras Film Festival, organisé par l'association Plan Séquence et qui s'est déroulé du 3 au 12 novembre à Arras. Je vous rappelle que ce film est sorti dans les salles et sera très bientôt proposé au Mégarama d'Arras.